France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes, mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur histoire, leur signification et leurs évolutions.
En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Et aujourd'hui, l'antisionisme est-il toujours un antisémitisme ?
Il y a cette forme d'antisémitisme d'extrême droite, mais qui, je crois, est devenue beaucoup plus marginale qu'autrefois, et en tout cas, ce qui est déjà positif, n'ose plus s'affirmer comme il s'affirmait avant la guerre. J'étais enfant, mais enfin tout de même, je me souviens de certains journaux d'avant-guerre, et puis on en parle, on a l'occasion de relire une certaine presse, et puis certains partis politiques se réclamaient officiellement de l'antisémitisme.
Simone Veil, entretien avec Jacques Chancel sur France Inter en décembre 1982.
Alors, il existe toujours, je reçois de temps en temps ce genre de courrier qui émane de ces milieux, c'est tout de même limité, en tout cas, il n'ose pas s'afficher. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est qu'il y a une nouvelle forme d'antisémitisme qui est liée à Israël. C'est-à-dire que j'ai eu dans le passé l'occasion de dire que antisionisme, antisémitisme, ça n'était pas pareil. C'est vrai, ça n'est pas pareil. Étymologiquement, et on peut très bien concevoir que politiquement, ça ne soit pas la même chose. Mais petit à petit, on s'aperçoit, et là je trouve que le phénomène s'est beaucoup développé ces derniers mois, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de confusion dans les esprits et qu'il y a un glissement qui se fait, et on a entendu des phrases tout à fait extraordinaires ces derniers temps, de gens qui, parce qu'ils étaient antisionistes, parce qu'ils étaient contre la politique de Begin ou contre la politique d'Israël, en venaient à mettre en cause tous les juifs. Moi, ça m'est arrivé, je me suis trouvée face à quelqu'un qui me disait « Mais enfin, vous les juifs, nous rendant responsables. » Bon. Et alors là, et ça prenait une connotation antisémite très, très, très forte. Et là aussi, je parlais tout à l'heure du courrier que je reçois dans certains cas venant d'un bord. Ça, ce courrier-là, je le reçois aussi, quelquefois, de l'autre bord. Et je dois dire que comme il est potentiellement beaucoup plus important et beaucoup plus dangereux. Actuellement, il faut à chaque moment de l'histoire rechercher ce qui peut être un danger. Et là, alors, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais qui peut prendre une grande importance, parce que dans les jeunes générations, c'est un phénomène qui peut très bien se répandre, sans même qu'il y ait une conscience du risque.
Peut-on être antisioniste sans être antisémite ? La question se pose dans le débat public et elle a beaucoup évolué depuis ce propos de Simone Veil de 1982, déjà donc en 82, bien avant la vague islamiste des années 90, un nouvel antisémitisme déguisé en antisionisme était repéré. L'antisionisme est-il toujours un antisémitisme ? La réponse apparaît encore moins claire aujourd'hui après la seconde intifada, trois décennies d'actualité chaotique au Proche-Orient, puis l'attaque terroriste du 7 octobre et l'offensive israélienne sur Gaza, largement critiquée par l'opinion internationale, la question est sans cesse posée. Pourtant, oui, on peut être antisioniste sans être antisémite. Et d'ailleurs, quelques religieux juifs ultra-orthodoxes qui se disent gardiens du temple le sont, et de façon virulente. Beaucoup plus significatif et plus politique, de nombreux intellectuels juifs sont antisionistes, et il y avait même une organisation juive d'Europe de l'Est avant la guerre très puissante, le Bundisme, sorte de proposition syndicale et politique socialisante tout à fait opposée à la création de l'État d'Israël. Bien sûr, l'antisionisme peut aussi cacher un antisémitisme, exactement comme avant la création d'Israël, un certain sionisme cachait un antisémitisme, celui d'une extrême droite qui voulait qu'il y ait une terre pour les Juifs afin qu'ils quittent l'Europe. Avec le conflit entre le Hamas et Israël, la montée du fondamentalisme islamiste, le virage théocratique du sionisme au pouvoir, il devient de plus en plus difficile de démêler les positions politiques antisionistes du retour d'un antisémitisme à peine masqué. Aujourd'hui, nous allons voir que l'antisionisme peut être aussi le fait de juifs militants de la paix avec la Palestine. Aucun antisémitisme, bien sûr, dans cette position. D'ailleurs, l'antisionisme ne veut pas forcément dire vouloir la fin d'Israël.
D'abord, nommer le mal.
Emmanuel Macron, en 2022, à Toulouse, rendant hommage aux victimes des attentats commis par Mohamed Merah.
« qui ne voit que l'antisémitisme se cache de plus en plus sous le masque de l'antisionisme. Je l'ai dit lors du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme.
Vous entendrez dans cette émission trois intellectuels juifs engagés aujourd'hui, la sociologue Eva Illouz, professeure à l'EHESS, qui n'est pas du tout antisioniste, mais qui s'inquiétait des effets de la politique de Benjamin Netanyahou sur le contenu actuel du projet sioniste avant le 7 octobre. Nous entendrons aussi un antisioniste farouche et militant pro-palestinien, fils du résistant juif du groupe Manouchian, petit-fils de victime de pogrom, Pierre Stamboul, co-président de l'Union juive française pour la paix. Mais d'abord, Shlomo Sand, écrivain israélien né en 1946, engagé à gauche, ils sont bien minoritaires aujourd'hui. Shlomo Sand ne se dit pas antisioniste, tout juste non-sioniste, asioniste. Il se définit comme israélien tout court. Il est partisan d'un seul État fédéral pour les juifs et les palestiniens, dans une parfaite égalité. Il est l'auteur de ce livre au titre provocateur « Comment j'ai cessé d'être juif » chez Flammarion en 2013, et puis très récemment « Deux peuples pour un État, relire l'histoire du sionisme au seuil ». J'ai rencontré Shlomo Sand lors de son passage en France il y a quelques jours pour la promotion de son livre. Rendez-vous dans un café du quartier du Marais à Paris. Shlomo Sand, vous savez qu'en France, être antisioniste, c'est souvent assimilé à être antisémite. Parce que c'est vrai que de véritables antisémites, quelquefois, cachent leur antisémitisme derrière un antisionisme. Mais après tout, on peut être antisioniste.
Bien sûr. Je connais personnellement des antisionistes qui ne sont pas du tout antisémites. Et Noam Chomsky, par exemple, on le considère comme être un antisioniste.
Un grand intellectuel américain.
Oui, un des grands intellectuels juifs américains. Personne ne va pas penser qu'il est antisémite. Je peux être un peu provocateur et dire que c'est le contraire. C'est-à-dire, vous voyez que le sionisme apprend les juifs comme un peuple race. Pourquoi je dis peuple race? Simplement parce que, vous savez, la définition ordinaire quotidienne des peuples, c'est un groupe humain qui vit ensemble, qui ont une langue commune, une certaine culture commune, et il veut vivre ensemble. Dans le cas des Juifs, c'est complètement différent. C'est-à-dire la plupart des Juifs aujourd'hui dans le monde peuvent venir vivre en Israël. Ça fait déjà 75 ans qu'ils peuvent venir vivre. Et la majorité écrasante ne veut pas venir vivre. Appliquer les mots peuple pour des groupes humains de dispersés qui ne veulent pas vivre ensemble, qui ne savent pas la langue commune, et ils ont une certaine solidarité, une grande partie de eux, est positive. Donc, à cause de cette passé et à cause de l'existence toujours d'un antisémitisme.
Que répondez-vous à l'accusation selon laquelle l'antisionisme est le nouvel antisémitisme?
Le linguiste américain Noam Chomsky.
La meilleure réponse vient d'un ambassadeur aux Nations Unies, Abba Eban. Il a écrit un article intéressant quand il était en poste aux Nations Unies pour Israël, dans lequel il émet deux possibilités. Premier cas, critiquer la politique d'Israël, c'est de l'antisémitisme. Et seconde possibilité, si la critique est faite par un juif, alors c'est un cas de maladie mentale qui nécessite un traitement psychiatrique. Et il a donné deux exemples. Et le second, c'était moi. Donc nous devons être traités pour maladie mentale et les non-juifs doivent être condamnés pour antisémitisme s'ils critiquent l'État d'Israël. On peut comprendre pourquoi l'État d'Israël a pris cette position. Je ne blâme pas particulièrement Abba Eban pour faire ce qu'un ambassadeur est supposé faire. Il n'y a rien à répondre. Ce n'est pas de l'antisémitisme. C'est simplement une critique de l'action criminelle d'un État. Point final.
Dire qu'antisionisme et antisémitisme, je suis sûr qu'il y a antisionisme qui, la motivation, et antisémitisme, je suis sûr. D'ailleurs, je raconte aussi moi-même, parce que les gens se trompaient à propos de moi, parce que je critiquais le sionisme les dernières 15-20 ans, et les gens, il y avait ici et là des antisémites qui se rapprochaient pour savoir si je leur appartiens. je crois, que si l'antisémitisme a créé le sionisme, hélas, aujourd'hui, c'est l'État juif qui crée un nouveau sort d'antisémitisme à cause de sa politique. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'antisémites qui profitent d'un moment pour attaquer Israël. Donc, glisser des antisionismes, glisser des anti-israélismes vers l'antisémitisme est parfois facile.
Vous-même, Shlomo Sand, vous vous considérez comme antisioniste ou alors vous avez dans votre dernier livre démontré que le sionisme n'était pas forcément une idée colonisatrice, une idée impérialiste, comme elle est dénoncée.
Oui, je ne suis pas sioniste. Je ne me définis pas anti-sioniste, mais j'ai insisté pendant les derniers 15 ans que je ne suis pas sioniste. Le sionisme contient une idée colonisateur. Pas colonialisme, mais colonisateur. Ça veut dire venir sur une terre qu'il y a là-bas des indigènes en majorité.
Et ce n'est pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre.
Pas du tout. C'est-à-dire, il y a des millions, il y a 120 ans en Palestine. Millions d'indigènes, je ne l'appelle pas palestinien à cette époque, et les historiens palestiniens sont fâchés de moi, que dans mon dernier livre, j'ai insisté qu'un peuple palestinien s'est créé seulement dans l'année 60 du XXe siècle. Vous savez, les indigènes, les Indiens n'étaient pas peuple comme ils ont lutté contre la conquête blanche.
Oui.
Oui, le sionisme n'est pas une idée de colonialisme, mais c'est une entreprise colonisateur. Si vous venez sur une terre et il y a la majorité écrasante des paysans locaux, et d'ailleurs les premiers sionistes, et je souligne ça dans tous les livres, des Ben-Gurion jusqu'à les personnages que j'expose dans le dernier livre, ils sont assez sûrs que les chances qu'entre ces paysans indigènes, il y a des anciens hébreux, est fort possible. Vraiment, c'était idée partagée jusqu'à l'année 40 du siècle dernier. Une chose que je n'ai pas vue auparavant. C'est le plus grand intellectuel qui ont participé à cette entreprise colonisateur du sionisme, c'est-à-dire venir et pousser peu à peu une autre population, c'est une colonisation. Pas un colonisme dans le sens ordinaire des termes, mais une colonisation. Vous pouvez le traduire en je ne sais pas quel joli mot, mais c'est une colonisation.
Une sorte d'installation, on pourrait dire une installation.
Oui, installation, mais sur le compte des autres. Oui. Et si on ne comprend pas cette fait, on ne comprend pas la dernière tragédie de 7 octobre. Il y a un lien entre les deux choses. Et ceux qui nient que nous sommes, nous, les Israéliens, un fruit d'une colonisation, ne comprend pas et ne va pas régler le conflit.
France Inter, en quête de politique. Thomas Legrand.
Nous sommes toujours avec l'écrivain israélien Shlomo Sand et nous parlons du sionisme et de l'antisionisme.
Vous dites dans votre dernier livre, Shlomo Sand, qu'il y avait dans les penseurs du sionisme des personnages, des personnalités qui prenaient l'idée d'un seul État avec les Arabes, avec les Palestiniens, qui n'étaient pas encore des Palestiniens, comme vous le dites. Et vous avez évolué dans votre pensée politique sur l'idée qu'il faut non plus deux États, comme c'est l'idée un peu généralement répandue en Occident, en tout cas en France et à l'ONU, mais un seul État. Ça paraît assez révolutionnaire. Et en fait, non.
Non, justement, toujours j'ai défendu deux États. Et comme un bon républicain, j'ai défendu les droits d'autodétermination nationale. Et ben oui, j'ai toujours voulu qu'Israël devienne l'État de ses citoyens, et n'est pas l'État des Juifs français qui ne veulent pas vivre là-bas, qui ne vont pas vivre là-bas, qui ne m'aident pas à vivre là-bas. Donc, mais ma position était toujours deux États parce que le droit d'autodétermination était sacré pour tous les gens de gauche. Parce que après 800 000 colons dans les places fortes de Hebron, de Jéricho et partout dans le Cisjordanie, je pensais que ce sera illogique de prétendre qu'on peut l'arracher de cette terre. D'ailleurs, j'ai eu des élèves qui sont nés là-bas et participaient à mes séminaires comme des gauchistes même, vous savez, des enfants des colons. Et aussi les compositions de notre capitale, Jérusalem, qui est composée d'une vieille ville arabe, El Quds, et entouré avec des colons tout autour, et je crois pas qu'on puisse séparer. Vous savez, ça me rappelle la grande histoire de Shlomo le roi avec les divisions des bébés. Vous savez, que deux mères disent chacun que c'est son fils.
Si on coupe le bébé en deux pour faire un partage équitable, c'est ça?
Exactement. Donc je suis arrivé à la conclusion que c'est loin. Même aujourd'hui, je ne suis pas contre deux États, mais nous sommes tellement imbriqués les uns dans l'autre. Il y a 2 millions d'Arabes israéliens, collègues qui travaillent avec moi aussi à l'université, beaucoup de médecins partout, arabes, et pharmaciens, qu'est d'Arabes en Israël. Et aussi, il y a 850 000 à peu près de colons en Cisjordanie. Et en plus, il y a des choses tellement sacrées à Jérusalem pour les deux peuples, c'est devenu impossible. Et moi, je suis arrivé, si on ne peut pas diviser un pays, il faut partager la souveraineté sur le pays. Pour des Français, c'est un peu inimaginable.
À la limite, non. Pour des Français, nous, on est une république. La religion est censée être secondaire. On a des Basques, des Bretons, on a un peu de tout.
Tout autour, vous avez des pays qui sont basés par le principe fédératif, binational, les Belgiques, les Grandes Angleterre,
la
Suisse, l'Espagne. C'est aussi une fédération. Donc tout autour, même un peu l'Italie, même moins, tout autour de la France, et ils ont trouvé en Europe des formes de coexistence, pas à cause d'affinités, pas à cause d'amour, mais par obligation. Et vous savez, ils s'étouaient entre eux, les Suisses, et espagnols jusqu'à maintenant, avec les Basques et les Catalans, et pour ne pas parler les Irlandais, non. Donc, on ne sait pas. Mais
il y avait une religion commune. Alors, l'Irlande du Nord, c'est protestant catholique, mais enfin, ce sont des chrétiens. Est-ce que la religion, surtout ces dernières années, ces dernières décennies, où la religion est devenue primordiale,
de deux côtés. Allez, je vais arriver avec les pépins.
Le pépin de la religion.
Mais je voulais dire, on réfléchit sur l'impossibilité de diviser un pays. J'ai me lancé comme historien sur l'histoire d'idées des binationalités dans le sionisme et à côté du sionisme. Et je découvre que peut-être les philosophes les plus importants, les théoriciens les plus vraiment marquants dans le sionisme étaient toujours, presque toujours, pour un État binational. Une partie à cause des principes de morale, on ne peut pas venir bâtir un État juif exclusif comme la majorité des indigènes ne sont pas juifs. Des Khadam, qui en France on ne connaît pas les noms, qui lui à côté de Herzl, c'est le fondateur du sionisme spirituel.
Théodor Herzl.
Non, Herzl n'était pas pour le binational, mais Théodore Herzl était le fondateur de l'idée sioniste. À côté de lui, il y avait Khadam, même émigré en Palestine. Il a appris l'arabe à la fin de sa vie. C'est lui qui a inventé les hébreux journalistiques, les pamphlétaires, etc. C'est lui le génie. Et lui, il est arrivé à l'idée que Palestine doit contenir deux formations. Qu'il doit collaborer entre eux. Moralement, il n'a pas accepté qu'on nie les droits des indigènes.
Quelqu'un aussi comme beaucoup plus connu en France, Hannah Arendt, et grande philosophe.
Il y a une série de personnes comme Gershon Scholem, le grand historien, Martin Buber, les plus grands philosophes juifs. Le plus grand philosophe du XXe siècle juif, c'est Martin Buber. Et aussi des personnages qu'en France, on ne connaît pas les noms, jusqu'à Hannah Arendt, qui a accompagné le sionisme. Tous ces grands penseurs, mais vraiment tous les grands penseurs, étaient pour le binationalisme, ou par raison, comme je dis, morale, ou par raison pragmatique. Par exemple, Hannah Arendt, qui est un type vraiment brillant, à 48, avec Magnus. Magnus est le plus aimé pour moi, c'est ce homme américain religieux, profondément croyant. Elle a dit, cet État va être une Sparte moderne, pas une Athènes. Pourquoi? Parce que chaque 10 ans, il y aura une guerre.
Sparte, donc, une cité de guerriers, une cité de guerre.
Chaque 10 ans, il y aura une guerre.
Elle avait raison.
Beaucoup. Elle a raison. Il y a une chose importante, et plus importante après le 7 octobre tragique. État juif exclusif ne peut pas exister en Proche-Orient. Tous ces penseurs ont dit que la condition sine qua non pour vraiment s'installer au Proche-Orient, c'est vivre avec indigènes. Le 7 octobre a montré que rien n'a pas en profondeur changé. La meilleure défense pour l'existence israélienne au Proche-Orient n'est pas l'accord de paix d'Abraham ou des Saoudiens, c'est trouver un modus vivendi avec une partie au moins du peuple palestinien. Jusqu'à la guerre de 67, la plupart des rabbins, pas orthodoxes, rabbins sionistes, étaient les plus modérés dans l'échiquier politique israélien. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ?
N'oubliez pas que tous les épisodes d'Enquête de politique sont disponibles à la réécoute sur l'appli Radio France et sur franceinter.fr. Vous pouvez aussi nous écrire sur la page de l'émission, par exemple, pour nous suggérer un isme. On retrouve l'écrivain israélien Shlomo Sand dans un café du Marais à Paris. Nous en étions au tour religieux que prend le sionisme ces dernières années.
Dans le monde postcolonial, en place de nationalisme et socialisme, des Vietcong jusqu'à les FLN, je ne sais pas. Il y a des symbioses entre nationalisme et religion partout. Les mouvements socialistes, socialisants, etc., ont reculé partout. Il n'y a pas vraiment front populaire, front démocratique dans les camps palestiniens.
Une sorte de repli identitaire par la religion.
Par la religion vers la nation. Une symbiose. Et j'ai pu continuer, Hezbollah, Iran, Taliban, les symbioses, oui. Jusqu'à Gaza, Hamas, et jusqu'à Jérusalem. Le sionisme religieux aujourd'hui, qui est l'extrême droite de la sensibilité politique sioniste en Israël. C'est cette symbiose dans l'extérieur monde qui se cherche avec un recul en arrière. Pourquoi ? J'ai appliqué le mot socialisme comme le mythe du futur. Socialisme, c'est un mythe du futur. La religion, c'est des mythes du passé. Les mythes du passé se renforcent. Et comme ils sont toujours concentrés sur l'identité, à mon avis, communautaire, fermée et pas rationnelle, ils sont religieux. Donc, je crains pas la religion, je crains les symbioses entre nationalisme et religion. C'est une grande différence.
Mais vous-même, Shlomo Sand, vous dites que vous n'êtes plus juif. Vous êtes de culture juive, mais vous n'êtes plus juif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas croyant, simplement. Beaucoup de Français sont catholiques, de culture, mais ne croient pas en Dieu, et donc se disent pas vraiment catholiques, même pas du tout catholiques. Est-ce que c'est la même démarche que vous avez ?
Pas exactement, parce que le judaïsme n'est pas le catholicisme. Je voulais vous dire une chose, et ça c'est important pour comprendre ma vision politique. Très tôt, avant que j'ai eu des idées de fédéralisme et de confédéralisme, j'ai été pour Israël comme une république à la française, une république de ses citoyens. Donc, entre israélisme et judaïsme, je préfère l'israélisme qui est inclusif. Mes collègues arabes sont israéliens. Par contre, ils ne sont pas juifs. Et hélas, l'État d'Israël s'est défini pas comme État israélien, parce qu'avec une langue israélienne, avec une culture israélienne, avec un patriotisme israélien très fort. Non, il s'est défini comme État juif. Si on ne comprend pas que presque tout le leadership de Hamas, c'est des enfants, des réfugiés qui sont venus déjà faire des Ashkelon, des Ashdod, de tout ça. Si on ne comprend pas ça, on ne va pas terminer. Et je crois, pour conclure, que Hannah Arendt a eu raison de dire qu'un État juif exclusif n'a pas un avenir.
Merci, on va finir avec cette phrase de Hannah Arendt. Merci Shlomo Sand.
Merci à vous.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Monsieur Halevi, vous êtes israélien, vous êtes en mission officielle pour l'OLP, on pourrait s'en étonner.
L'ambassadeur Ilan Halevi, le 12 avril 1983.
Oui, je tiens à préciser d'ailleurs que je suis israélien de nationalité, bien que j'ai également la nationalité française. Je reste israélien aux yeux de la loi israélienne, mais je vis en France depuis bientôt 8 ans. Et lorsque j'ai vécu en Israël, j'étais un militant anti-sioniste. C'est-à-dire que je militais dans les courants politiques israéliens qui refusent le sionisme en tant que philosophie politique et dans toutes ses implications. Et que c'est à ce titre-là que j'ai été associé au travail de l'OLP au cours des dernières années.
Nous allons maintenant à la rencontre à Marseille de Pierre Stamboul, professeur de mathématiques en retraite et militant de l'Union juive pour la paix, un mouvement proche de l'extrême gauche, ouvertement pro-palestinien. Pierre Stamboul tentait de se rendre à Gaza pour une mission humanitaire quand l'attaque du 7 octobre a eu lieu. Pierre Stamboul, antisioniste et juif, aux propos radicaux, rencontre à Marseille sur la terrasse du Mucem.
Je suis antisioniste parce que juif. Nous sommes les héritiers d'une époque où la grande majorité des juifs considéraient que leur émancipation comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité. Pour nous, le sionisme, c'est un crime contre les Palestiniens, mais pour nous, juifs, c'est une injure à notre mémoire, à notre histoire et à notre identité.
Comment vous vous sentez dans le débat tel qu'il est après le 7 octobre ?
Écoutez, je milite pour les droits du peuple palestinien depuis plus de 20 ans. J'ai fait de nombreux séjours en Palestine. Je suis allé deux fois à Gaza, en 2013 et en 2016. Notre association, l'Union juive française pour la paix, nous sommes en solidarité avec les paysans du sud-est de la bande de Gaza depuis 2016. Les gens qui vont sur notre site pourront voir les réalisations impressionnantes que les paysans ont réalisées en solidarité avec nous et en portant partout le logo, le badge, le drapeau UJFP, donc à Gaza, Union juive française pour la paix. Nous montrons ce que c'est qu'une solidarité contre le communautarisme, contre le tribalisme. Et aujourd'hui, nos correspondants à Gaza sont réfugiés sous la tente. Ils ont tous de très nombreux morts dans leur famille et ils essaient, avec l'argent qu'on arrive à leur faire parvenir, de sauver la population gazaoui de la famine et des épidémies. En tant que juif, je dis, ce qui se passe là-bas, c'est un génocide. Et je sais ce que c'est qu'un génocide. Ma famille maternelle a été exterminée. Mon père était dans le groupe Manouchian. Souvent, les gens ont dans l'idée que génocide, c'est extermination. Pas seulement. Il faut regarder la définition internationale, mais affamer toute une population, déplacer 90% des gens, tirer sur les hôpitaux, les ambulances, le personnel de l'UNRWA, les écoles, ça s'appelle un génocide. C'est dans la définition internationale de génocide. Et je dis, en tant que juif, nier cette réalité-là, c'est du négationnisme. Et j'emploie volontairement ce mot qui est extrêmement choquant chez les juifs.
Oui, vous avez conscience que ce que vous dites là est très choquant. C'est de la provocation.
Non, c'est pas de la provocation du tout. C'est ce que je pense très profondément. C'est du négationnisme de nier la réalité de ce qui se passe à Gaza. En proportion, il y a plus de morts à Gaza en 3 mois qu'en France pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Je reprendrai les paroles de Michel Warchavski, anticolonialiste israélien. Gaza, c'était comme une cocotte minute. Ça ne pouvait qu'exploser. Et il rappelle que, puisqu'on parle de la violence du 7 octobre, qu'avant le 7 octobre, en 2018-2019, il y a les marches du retour à Gaza, des manifestants pacifiques. Le bilan, c'est 350 morts et 10 000 estropiés, jambisés, au vu et au su de tout le monde, avec des soldats qui les canardaient. Donc on ne me dise pas que c'est parce qu'il y a eu la violence. Quand nous disons que le sionisme n'est pas seulement un crime contre les Palestiniens, qu'il est suicidaire pour les Juifs, il l'est complètement. Le 7 octobre, on l'a prouvé. Comment on peut imaginer qu'on va enfermer des millions de personnes, qu'entre mer Méditerranée et Jourdain, il y a 7 millions de juifs israéliens, il y a 7 millions de palestiniens, les uns ont tout, les autres ont été fragmentés et n'ont rien, et que ça va tenir? Ça, c'est suicidaire. Le long de cette fameuse barrière qui a été cassée le 7 octobre, il y a des tortueuses tous les 250 mètres. Un mélange de Moyen-Âge et de science-fiction. Ça fait 20 mètres de haut. En haut, il y a une espèce de champignon. Il n'y a personne dans la tour. Elle est télécommandée et de temps en temps, elle s'ouvre et elle canarde. Le long de cette frontière, à propos des fameux kibbutz progressistes qu'il y avait autour, il y a 150 puits. L'eau de la nappe phréatique qui vient de Cisjordanie est pompée. 97% de l'eau à Gaza est inconsommable. La nature a horreur du vide. La nappe phréatique est envahie par l'eau de mer. Et j'étais sur ces terres. De l'autre côté, on voit ces fameux kibbutz, il y a les piscines et l'arrosage automatique. C'est ça une situation coloniale et c'est ça qui ne pouvait pas durer.
Comment vous luttez-vous, en tant que juif français, contre l'antisémitisme ?
Écoutez, déjà, quand à Gaza, on se présente partout comme Union juive française pour la paix, quand et partout on est reçu, que ce soit les associations, les partis, tout le monde, Nous sommes contre l'occupation, nous n'avons rien contre les Juifs. Quand les paysans de Gaza, de leur propre chef, on leur a rien demandé, mettent sur le château d'eau qui a été construit avec l'argent de la solidarité UJFP, quand il y a une voiture qui sillonne Gaza avec un agronome pour donner des conseils aux paysans et qui est marquée en énorme Union juive française pour la paix, on fait notre boulot. Quand on fait des conférences dans les quartiers, je vais en faire une la semaine prochaine, mais j'en fais souvent.
Vous êtes à Marseille, vous allez dans les quartiers nord de Marseille?
Mais je suis invité à Marseille, mais je suis invité la semaine prochaine à Perpignan, et j'ai été invité dans toute la France. Quand on va dans les quartiers, quand on rencontre, parce que on est sans arrêt avec eux dans les manifestations, des musulmans, ils nous disent, heureusement que vous êtes là, vous arrivez à dire ce que nous, on n'a pas le droit de dire, et ils nous disent, on ne savait pas, pour certains, ils nous disent, on ne savait pas qu'il y avait des juifs comme vous. C'est-à-dire que nous, on défend le fait que juifs sionistes israéliens, ce n'est pas pareil. On rappelle le fait qu'en Palestine, avant l'arrivée du sionisme, la majorité musulmane vivait sans aucun problème avec les minorités chrétiennes et juives, qu'ils étaient ensemble dans le conseil municipal de Jérusalem, qu'ils ont toujours vécu ensemble, que le premier assassinat politique que les sionistes ont fait contre un juif, c'était Jacob de Haan en 1924, parce qu'il était contre la déclaration Balfour et parce qu'il disait « on a toujours vécu avec nos voisins et on va continuer ». Donc voilà, lutter contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, on est obligé, de mon point de vue, quand on lutte contre l'antisémitisme, de se prononcer sur cette guerre-là. Parce qu'on ne peut pas d'un côté dire le racisme c'est dégueulasse, et en même temps soutenir un régime raciste et suprémaciste. Le régime israélien, il est raciste, il est suprémaciste, il est dirigé par des gens d'extrême droite. L'ancien Premier ministre Naftali Bennett disait « j'ai tué beaucoup d'Arabes dans ma vie, je ne vois pas où est le problème ». Yoav Gallant, il vient de dire que les Palestiniens étaient des animaux humains. Tout ça, pour nous, Juifs, ça nous évoque ce qu'on dit aujourd'hui des Palestiniens ou ce qu'on dit aujourd'hui des Arabes et des musulmans en général, ça m'évoque ce qu'on disait des Juifs dans les années 30. Donc nous, à l'Union juive française pour la paix, on considère que si l'antisémitisme a été un racisme à part au moment de l'extermination, il n'est plus, aujourd'hui, il n'est pas un racisme à part. On ne peut pas dire aujourd'hui en France qu'il y a plus de racisme contre les Juifs qu'il n'y en a contre les Noirs, les Arabes, les Roms ou les musulmans. Quand un Juif cherche un logement ou un travail, il subira infiniment moins de discrimination que n'en subira un Noir ou un Arabe. C'est évident, aujourd'hui. Et donc c'est bien sûr tous ensemble, au nom de l'égalité des droits, qu'on doit lutter contre le racisme partout où il se trouve et quel qu'il soit. Mais c'est pas en faisant de l'antisémitisme un racisme à part, et c'est surtout pas en embrigadant l'antisémitisme derrière la défense d'un régime raciste.
Nous allons maintenant dans les locaux de l'EHESS, École des hautes études en sciences sociales, boulevard Raspail à Paris, retrouver Eva Illouz, assez troublée que je consacre une émission sur l'antisionisme juif. La sociologue que l'on connaît surtout pour sa spécialité sur les émotions n'est pas du tout antisioniste, mais elle est critique de la politique de Netanyahou. Les attentats du 7 octobre ont bouleversé le monde intellectuel et politique de la gauche israélienne, déjà mal en point ces dernières années. Eva Illouz, franco-israélienne, voit tous ses repères troublés. Elle est l'autrice de « Les émotions contre la démocratie », édition Premier Parallèle. Eva Illouz, on vient d'entendre Shlomo Sand qui se dit israélien, pas antisioniste, mais pas sioniste non plus, mais anticolonialiste. Il est favorable à un seul État fédéral. Et puis après, on a entendu Pierre Stamboul, lui, tout à fait antisioniste. Qu'est-ce qu'être sioniste aujourd'hui, en 2024?
Alors, je voudrais dire quelques mots sur le sionisme en général, peut-être, avant de parler du sionisme en 2024. Le sionisme fait partie des grands mouvements nationalistes d'émancipation des peuples au XIXe siècle. Mais il a plusieurs particularités qui en font, un mouvement nationaliste différent des autres. Il vise à rassembler des gens qui parlent des langues très différentes, qui appartiennent à des nations très différentes, qui ont des cultures très différentes, mais qui vont se regrouper sous la notion à la fois vague et puissante de peuple juif. Deuxième remarque sur ce nationalisme. Je dirais que son territoire n'est pas a priori clair et tranché, puisque il y a eu, même s'il y a eu, disons, une présence continue des Juifs dans ce qu'on appelle au XIXe siècle la Palestine. D'autres possibilités territoriales s'esquissent, ce qui, au regard des nationalismes habituels, est un peu étrange, étant donné l'affinité profonde qui existe en général entre nationalisme, territoire, langue et peuple. Dans le sionisme, toutes ces catégories sont un peu décalées les unes par rapport aux autres. Et peut-être une troisième remarque, c'est que le sionisme a eu besoin des nations pour s'établir. D'abord l'Angleterre, qui était une puissance coloniale, et ensuite, plus tard, beaucoup plus tard, les États-Unis, qui ont été vus sous le prisme du colonialisme. Donc, je veux dire par là que son histoire avec le colonialisme est très confuse et qu'elle est perçue, je pense, de façon très confuse. Mais je veux dire aussi que c'est un pays qui a été le fruit d'une reconnaissance et d'un accord international.
C'est unique.
Il n'a pas émergé de façon organique à partir d'un territoire.
Il a émergé de façon post-traumatique après la guerre et reconnu par une instance internationale, par l'ONU, ce qui est unique.
En 1947, ce qui est unique. Mais donc, ce qui est unique d'un côté et qui montre la fragilité d'Israël aussi de l'autre, parce que je pense que les nations continuent de considérer que c'est un État dont l'existence dépend finalement de leur bon vouloir. Quand on pense au sionisme aujourd'hui, il faut se souvenir de cette dimension.
Et comme si, Eva Illouz, comme s'il y avait eu un contrat en 1947, à partir du moment où c'est un pays qui est né d'une décision internationale, d'une décision de l'ONU, il y a presque une idée de contrat entre l'ONU et ce que doit être Israël, ce qui est un peu enfermant.
Alors ça, oui, c'est une excellente remarque, parce que je pense que c'est la raison pour laquelle on associe aussi étroitement la légitimité d'Israël à son régime politique. Alors que la Russie peut être autocratique ou pas, ça ne remet pas en tant que tel en question l'existence même de la Russie. Or, c'est le cas pour Israël. Le sionisme émerge justement peut-être au moment où ça va le mieux pour les Juifs. Alors bien sûr, il y a des pogroms en 1880, il y a des accusations de meurtre rituel en Syrie, mais il n'empêche qu'au regard de l'histoire qui précède, c'est au XIXe siècle que la promesse de l'assimilation et de l'intégration dans les sociétés occidentales est la plus forte. Et c'est quand même là qu'émerge le nationalisme juif. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le sionisme émerge comme un rejet de l'idée d'assimilation. Et c'est à la fois un refus de l'assimilation et un manque de confiance dans la possibilité de l'assimilation, que cette assimilation promise sera possible, qui, à mon avis, explique la naissance du sionisme. Et la Shoah va en fait venir prouver que le diagnostic pessimiste des sionistes du début du XXe siècle avait raison. Et donc,
Ça valide Herzl,
exactement. Le sionisme, sans peut-être vraiment le formuler en plus comme ça, est né de ce que je pourrais appeler un problème juif, une question juive. Une question juive qui est un problème à la fois pour les juifs et j'ajouterais, pour les non-juifs. Et c'est ce que Jean-Paul Sartre comprend très bien quand il écrit son petit livre sur la question juive. Il comprend que c'est un problème politique et moral pour les non-juifs, autant que pour le juif. Je dirais que la question juive est un problème pour l'humanité en entier, parce qu'il s'agit d'un peuple qui n'arrive pas à vivre de façon normale comme les autres peuples. Et donc, aujourd'hui, pour répondre à votre question, au XXIe siècle, je dirais que cette urgence reste la même. C'est-à-dire l'urgence de savoir comment répondre au problème juif ou à la question juive. Mais elle est devenue très compliquée parce que Israël existe et que Israël, en tant que nation, a été intégré à la même logique qui a empêché les Juifs de s'assimiler au monde. C'est-à-dire, pour revenir aux questions que vous posiez tout à l'heure, on nie à Israël le droit à l'existence comme si on avait transposé finalement à la nation ce qui, auparavant, était le fait du peuple juif. Donc, être sioniste aujourd'hui, c'est forcément différent de ce que c'était il y a un siècle, puisque le foyer national juif existe, mais qu'on est obligé de faire le constat qu'il ne règle pas la question juive, pour des tas de raisons géopolitiques et politiques compliquées dans lesquelles je ne peux pas rentrer. Mais je dirais que la question à laquelle le sionisme doit répondre aujourd'hui reste de façon encore plus aiguë qu'au XIXe siècle, la question de leur sécurité. Puisque ni en Israël, ni en dehors d'Israël, les Juifs ne sont en sécurité. Et donc aujourd'hui, pour moi, être sioniste, c'est comprendre les nouvelles sources de cette insécurité et préconiser une normalisation géopolitique de la nation israélienne dans sa région, quelle que soit la forme de cette normalisation.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Eva Illouz, sociologue franco-israélienne.
Est-ce que le fait quand même que ceux qui s'opposent à Israël, c'est-à-dire les représentants politiques palestiniens, soient devenus avec le Hamas maintenant des islamistes, donc des religieux, et le fait aussi que ceux qui gouvernent Israël le gouvernent avec des religieux, souvent assez radicaux, est-ce que ça complique la question? Est-ce que ça change la nature du débat sur le sionisme?
Oh, je pense que oui. Écoutez, le sionisme a été un mouvement fondamentalement laïque, avec des variations ici et là. Je crois qu'on comprend plus cela aujourd'hui, mais que le sionisme se voulait être une troisième voie entre la religion et l'assimilation aux sociétés occidentales. Donc c'est pour ça qu'on va recréer la langue hébraïque et qu'on va créer une nouvelle culture, une culture qui est censée être commune, mais sur des fondements à la fois démocratiques et bibliques. Et donc, quand Israël est né, les laïcs passent une sorte d'accord pragmatique, très pragmatique avec les ultra-orthodoxes qui existent là-bas, pour sembler avoir plus de force vis-à-vis de la puissance coloniale anglaise. Et en signant ces accords avec les ultra-orthodoxes, qui sont un tout petit groupe minuscule à l'époque, ils ne pensent pas du tout. Ben-Gurion ne pense pas du tout aux conséquences au long terme. Mais ce que Ben-Gurion fait, c'est qu'il va créer finalement les fondements d'un État qui ne sera pas du tout laïque, mais qui sera en grande partie religieux. J'ajoute à ça qu'en 1967, après la guerre des Six Jours, émerge un nouveau courant messianiste. C'est-à-dire qu'il y a des Juifs qui pensent que la victoire d'Israël et d'Israël elle-même sont le signe de la venue très proche du Messie. Et au départ, les messianistes et les ultra-orthodoxes sont différents, parce que les messianistes croient à la valeur sacrée de la terre, et ils croient que le Messie est déjà là, ou quasiment là. Les ultra-orthodoxes n'y croient pas. Ils ne croient pas à la terre, et beaucoup moins, ils ne croient pas que le Messie est là. Mais ils vont faire, beaucoup plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, une alliance. Aujourd'hui, ils forment une alliance objective, ce qui fait que le sacré est devenue partie intégrante, je dirais, de la politique israélienne.
Est-ce que ça veut dire que le sionisme est devenu une proposition théocratique, ce qui changerait sa nature?
Alors, je dirais que le sionisme n'est pas plus une proposition théocratique que le nationalisme égyptien ne l'est au regard de la proposition théocratique des frères musulmans. Il y a des courants variés et divers au sein du sionisme. Il y a une proposition laïque, très laïque même, au sein du sionisme, et il y a aujourd'hui, oui, une proposition religieuse forte qui n'existait pas il y a quelques décennies. Vous avez entièrement raison. Je dirais aussi que la démocratie israélienne a été dangereusement affaiblie par ses forces fondamentalistes et religieuses. Mais le sionisme aujourd'hui, puisqu'on parle de sionisme, est attaqué de l'extérieur par les fondamentalismes chiites et sunnites, et par le fondamentalisme à l'intérieur. qui est le fondamentalisme des messianistes et des ultra-orthodoxes. Donc je dirais que le sionisme est devenu très divers, très varié, mais que la proposition religieuse est devenue beaucoup plus plausible aujourd'hui qu'elle ne l'était dans le passé.
Qu'est-ce que le 7 octobre change dans ce débat sioniste, anti-sioniste ?
Alors, le 7 octobre est déjà une date rupture. La gauche, une partie de la gauche en tout cas, pense au 7 octobre en termes d'un avant et d'un après. D'abord, pour les sionistes, le 7 octobre montre la fragilité d'Israël, une fragilité interne et externe, je répète, à la fois politique et sécuritaire, et de façon ironique et paradoxale, montre aussi, plus que jamais, la nécessité d'avoir un pays juif, d'un pays pour les juifs, pardon, non pas d'un pays juif, mais d'un pays pour les juifs. La différence est essentielle. Donc, pour les gens qui sont de ma génération, les événements du 7 octobre accentuent la nécessité pour les juifs d'avoir un foyer national. Ce qui n'était pas clair parce qu'on était essentiellement dans des débats de politique essentiels sur, par exemple, l'occupation, sur les effets catastrophiques de l'occupation. On ne pensait plus du tout à des questions sur les fondements même du pays. Or, le 7 octobre nous ramène en quelque sorte à ces questions fondamentales et télescope, si vous voulez, deux temps, ce qui est le temps du présent de la politique au présent d'Israël et le temps du passé des Juifs et de l'histoire juive, qui est surtout l'histoire de l'antisémitisme, et n'en font qu'un, parce que le 7 octobre a été vécu par la plupart des Israéliens et par beaucoup de Juifs dans le monde comme un événement dont la teneur est essentiellement antisémite.
La nature, donc, si vous voulez, la nature voilà. De cet événement montre que ce n'est pas un acte de guerre, mais un acte antisémite aussi,
donc, si vous voulez,
pour
la plupart
des Juifs.
Pour ceux qui, comme moi, combattent toujours d'ailleurs l'occupation, la colonisation de la Cisjordanie et les fondamentalismes religieux, le manque de séparation entre l'État et la religion en Israël, le 7 octobre est une régression dans ce combat politique qui est fondamental parce que ça nous ramène à des catégories qui sont quasiment pré-politiques. Ça nous ramène à des catégories où il y a deux conceptions du sacré qui se font face et un rejet, si vous voulez, de l'État juif qui nous ramène au sentiment ancestral du rejet des Juifs dans le monde. Donc c'est pour ça que ça marque, à mon avis, une grande régression dans notre combat politique.
Merci à Thierry Dupin pour la programmation musicale et à Laurent Baudouin qui était à la technique aujourd'hui. Franck Olivard s'occupe des archives sonores d'Enquête de politique et c'est Christophe Humbert qui, bien sûr, réalise l'émission. On se retrouve demain à 23h pour la rediff et la semaine prochaine, samedi à 18h10, pour un nouvel épisode d'Enquête de politique. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.